Bonjour à toutes et à tous, on est ravis d'être avec vous ce soir avec Monsieur Enki Bilal, que je salue. Bonjour.
Bonsoir.
À l'occasion de la sortie donc, du tome 4 de Bug aux éditions Casterman, top 4 sur 5 annoncés. Donc on s'approche, j'allais dire, du dénouement de cette série que vous avez entamée il y a quasiment 10 ans. Je crois que le premier tome est sorti en 2017, donc j'imagine que vous l'aviez en tête avant. Alors je pense que beaucoup d'entre vous ont lu les 3, voire les 4 premiers tomes, mais on va tenter un petit résumé succinct. Nous sommes donc dans les années 2040, 2041, 2042, en l'occurrence au début de celui-là, futur assez proche finalement. Tous les systèmes informatiques, numériques ont bugué en une fraction de seconde, serveurs, réseaux, mémoire numérique, tout s'est effondré. Et nous, on suit un personnage, qui s'appelle Cameron Hobb, qui découvre qu'un corps étranger ou une entité l'a investi, ce qui lui donne une mémoire phénoménale et ce qui fait surtout qu'il a un rôle central, puisque la mémoire mondiale du monde est en lui. Alors évidemment, il est la proie de toutes les convoitises gouvernementales, les convoitises les plus crapuleuses également. Et ce tome 4 commence alors que Cameron semble, j'allais dire, avoir perdu la raison. Le chaos général s'amplifie. Il arrive sur l'île de Lampedusa, on en reparlera, dans une sorte d'hôpital abandonné depuis 2030. On a l'impression, je ne sais pas si c'est une volonté dans la façon dont vous avez pensé cet album, mais que le tome 4 est encore plus dramatique, au début en tout cas, parce qu'après ça va aller vers une forme d'éclaircie, mais encore plus dramatique et encore plus un chaos mondial. C'était conçu comme ça ?
Oui, bien sûr. Enfin, en fait, c'est quand même un travail. Pour moi, c'est un travail. Hein. Je vois ça comme un travail. Ça déroule sur des années, effectivement. Et ce qui est important de dire, c'est que j'ai la fin en tête, depuis le début, quasiment, mais que le passage, le voyage, je ne l'ai pas. Je construis au fur et à mesure. Et à la fin du 3, il y a un élément très important. Le personnage recrache le bug qui est dans son corps. Il le recrache dans la Méditerranée, sur une côte libyenne. Et alors, c'est ça qui... Le projet est très important. Le sens final dans le 5 sera très important. Mais le voyage est comme ça, est sinueux. Et c'est au moment où il recrache ce bug du bien que je considère qu'il faut que le rythme change. On n'est plus dans la course-poursuite, dans la recherche, etc. C'est pas du tout finalement une histoire d'action. Il m'apparaît important qu'à ce moment-là, il y ait une lutte interne dans le personnage lui-même, quelque chose qui veut prendre possession de lui pour faire le mal. Voilà, faire une distinction entre le bien et le mal pour amorcer l'étape finale qui est donc le 5. Et donc, très vite, je comprends que celui qui recrache Hobb, donc ce bug-là, il est le bug du bien et que le bug du mal a pris possession de lui, de son être, de son cerveau, etc. D'où cette fin du 3, espèce de cliffhanger assez brutal où tout d'un coup, il s'adresse aux deux femmes qu'il a pas, une jeune fille et une jeune femme, leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites sur mon bateau? Qui êtes-vous » Voilà. Donc c'est une espèce de fin comme ça, brutale. Dans le 4, la fin est encore plus brutale. Mais ce qui se passe dans le 4, effectivement, est très important parce que ça amorce toute l'explication finale qui sera dans le 5. Et donc c'est un récit beaucoup plus abstrait, beaucoup plus brutal, mais beaucoup plus, comment dire, plus éclaté et en même temps qui délaisse finalement le côté un peu anecdotique de la série pour se concentrer, aller vers quelque chose de plus métaphysique, parce que forcément, il va falloir que dans le 5, j'explique pourquoi le bug, d'où vient ce bug, qui est-il, pourquoi Hobb, le personnage, etc., etc. Et évidemment, au-delà de ça, le regard complet sur notre humanité, notre parcours d'humain sur cette planète. Donc c'est un peu ça le principe. Et donc le fait de travailler comme ça, comme un peu un sculpteur, je sculpte l'histoire au fur et à mesure que j'avance dessus.
C'est ça, vous saviez pas au début qu'à la fin du tome 3, il allait se passer ça, par
non.
exemple. D'accord. Il y a un point de départ, un point final, et puis après...
Ni à la fin du 4, je ne savais pas. Je savais pas. 3 pages avant le 4, je ne connaissais pas la fin du 4. Ouais. Voilà. Donc et en même temps, ce sont des révolutions énormes pour l'auteur que je suis, parce qu'il va falloir que je règle le problème du 4 dans le 5.
Donc. Après, c'est trop tard maintenant.
Mais ça fait partie du jeu. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Mais évidemment, maintenant, je n'ai qu'une obsession. Et d'ailleurs, c'est la première fois que ça m'arrive à la fin d'un album, d'un livre, de recommencer dès le lendemain le suivant. Ça ne m'était jamais arrivé. Et là, j'ai vraiment commencé dans la continuité, parce que la rupture, il fallait la marquer. Et quand je dis rupture, le 5 sera un livre d'une facture tout à fait différente. Ce sera un livre hybride. Et je dis vraiment livre. Donc,
on parlera
plus
du
livre qu'album. Voilà.
Tout à l'heure. Ce que je trouve aussi intéressant dans le début de ce tome 4, c'est qu'on commence sur une image finalement assez abstraite, puisqu'on est dans le personnage, et c'est des aplats de couleurs. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette première page, mais des grands aplats de couleurs avec cette bataille justement entre le bleu, le rouge. Ça, c'est une image qui vous vient, j'allais dire, dès le départ du tome. Vous commencez par cette image-là et le reste en découle ?
Absolument, parce qu'il y a une ellipse énorme qui s'est jouée entre le 3 et le 4. Pour les lecteurs, d'ailleurs, elle est très très longue, plus que pour moi, puisque moi, j'ai le temps de faire, etc. Et puis je fais d'autres choses, évidemment, en plus. Mais donc, il fallait une image qui soit forte et qui marque la fin de l'ellipse. Voilà, la fin de l'ellipse, c'est quoi ? Voilà. L'état du cerveau de ce personnage qu'on a quitté, qui est en train de perdre la mémoire sur deux pages. Hein, seulement, c'était seulement ébauché, mais c'était brutal. Et là, on bascule dans le duel que va vivre ce personnage à l'intérieur de son cerveau entre le bien et le mal. Donc les deux couleurs aussi sont présentes dès le départ, le rouge et le bleu. Voilà.
Est-ce qu'on peut parler de presque de deuxième bug, enfin cette entité maléfique qui est en lui,
c'est un dédoublement. C'est aussi ça me rappelle bizarrement l'être humain, comme par hasard. Et je pense qu'aujourd'hui, on sera tous d'accord là-dessus. On ne va pas parler politique ni idées politiques, mais on sera tous d'accord pour dire qu'on est dans un monde binaire. Ouais. Hein, où c'est rouge ou bleu, c'est blanc ou noir. Y compris maintenant sur la couleur des peaux. Avant, ça pouvait être sur un truc un peu plus, je sais pas, aux échecs, par exemple. Gauche ou droite. Voilà, bien ou mal. Et donc, on est là-dedans. Et ça m'est apparu comme une évidence, en fait. Voilà, que finalement, peut-être que même dans l'univers tout entier, moi j'attends des visiteurs qui viennent nous expliquer comment j'aimerais vraiment connaître ça, évidemment. Je pense que vous aussi, je pense peut-être que même dans l'univers, peut-être que l'univers entier, ce Big Bang dont on dit qu'il a propulsé comme ça, là on va pas parler de Dieu non plus, mais certains le pourront. Et là aussi, je vais affronter, évidemment, je vais toucher à ces zones-là, dans le 5. Peut-être que c'est la règle de l'univers, de la nature, que d'être binaire.
Ouais. Mais détruire pour renaître. Ouais. Je disais, le début de l'histoire se passe donc sur l'île de Lampedusa, dont on parle beaucoup dans l'actualité. Pourquoi le situer à cet endroit-là, finalement ? Parce que dans le reste de l'histoire, ça a assez peu, j'allais dire, presque d'intérêt. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment... On n'arrête pas de vous dire, vous anticipez l'actualité. Là, c'est presque un clin d'œil de... Bah, regardez, tiens, je vais le mettre à un endroit dont on parle dans l'actualité.
Qui existait bien avant.
Oui, bien sûr.
Sauf qu'il y a l'hôpital de filtrage, n'existe pas. Bon. Alors, ça aussi, c'est une conséquence de cette liberté. Parce que finalement, qu'est-ce qui m'a amené en Libye ? Qu'est-ce qui m'a amené en Libye dans le 3 ? Je peux même pas l'expliquer moi-même. Il y avait des déplacements de personnages, etc. Donc, et je me dis, à un moment donné, le pute libyenne, l'action se situe à la fin, se situe à cet endroit. Et lorsque les personnages principaux, donc y compris Hobb, ayant perdu la mémoire, mais avec cette espèce de petite embarcation, lorsqu'ils s'éloignent, quittent, parce qu'ils sont quand même pourchassés, lorsqu'ils quittent la Libye, c'est pour remonter vers le nord de la Méditerranée. Et il se trouve que sur la route, la première île sur laquelle on tombe, c'est Lampedusa. Voilà. Donc les choses se font vraiment comme ça.
Oui, y a pas de...
Alors après, ça a un sens, évidemment.
Oui.
Tout ça a un sens. C'est une façon aussi de... Alors très importante aussi, quand même, parce que quand même, c'est une histoire qui a deux dimensions. Il y a une dimension qui est... Alors la dimension vraiment... Petite dimension intime, vraiment. C'est intime absolu de l'humain. Entre une fille qui veut, la fille qui veut retrouver son père, qu'il ne connaît pas ou quasiment pas, et inversement, le père qui veut la retrouver aussi. Donc ça, c'est très, très, très humain et ça nous concerne. Et donc, il faut aussi qu'il y ait des éléments qui accompagnent cette histoire humaine. Donc, Lampedusa fait partie de notre histoire d'humain, on ne peut pas le nier. Et le simple fait de faire se dérouler l'action, pour moi, dans la Méditerranée, de faire partir en plus un petit bateau comme ça vers le nord, je pense qu'à une chose, je pense immédiatement aux migrants qui continuent de mourir comme ça, de manière scandaleuse, honteuse, c'est pas une des gloires de l'humain là-dessus non plus. Donc voilà, ça se fabrique comme ça. Et puis il y a la deuxième dimension qui est, alors, qu'on ne pressentait pas pour l'instant et qu'on commence à pressentir dans le 4, qui est une dimension métaphysique et universelle au sens de l'univers, du cosmos, et la question du bug. Qui est ce bug? Alors, je suis en ce moment, comme je suis en train de travailler là-dessus, je suis en train d'entrer dans la peau du bug.
Voilà. Et alors? Ça donne quoi?
C'est pas très confortable pour l'instant. Je vais essayer de trouver mes marques. Bah. Mais c'est bon, voilà, pour moi, c'est un voyage. Et c'est comme ça que j'aime bien travailler. Mais ça, c'est une chance énorme. Hein, je reconnais, c'est une chance de liberté extrême, énorme, que me donnent les lecteurs et que me donne mon éditeur. Voilà. Très important.
Vous parliez de la fille, elle a un rôle terrible dans cet homme, parce qu'elle assiste presque impuissante. Alors, je ne vais pas trop en dévoiler, je ne sais pas si tout le monde l'a déjà lu, mais presque impuissante à ce qui est en train de se passer, à son père qui est en train de changer. Et je trouve que c'est presque elle qui apporte la dimension la plus dramatique, alors que c'est un simple, entre guillemets, personnage, mais à toute l'histoire.
Par de la fille, hein, Clément, ouais, bien sûr. Ouais. Oui, alors, parce qu'elle n'arrive pas, il est insaisissable, elle n'arrive pas à l'approcher. Et au moment où elle pense pouvoir l'approcher, il se passe quelque chose qui... une espèce d'inversion absolument absurde. Et donc, c'est... il faut que je trouve maintenant la solution pour la ramener.
Et pour qu'il se retrouve à un moment quand même.
Ah oui, ça ne peut pas être autrement.
Ah bon, je veux nous rassurer.
Ça ne peut pas être autrement.
Ce bug, vous le disiez, donc recraché dans la Méditerranée, on découvre qu'il a été avalé par une murène.
Ah oui.
Et on sent que derrière se joue peut-être une partie de la solution. Je me trompe?
Ben oui, lorsque la murène l'avale, le bug bleu, à ce moment-là, ça me convient. Je verrai comment je récupère le bug après. La mémoire disparaît, il est en train de basculer, le bleu le couvre complètement. Et après, ben évidemment, il fallait trouver la solution pour inverser, pour faire triompher le bien, parce que sinon ça n'a pas de sens, surtout que le mal a eu le temps de faire beaucoup de mal, ce que je ne montre pas, j'évite de montrer au maximum, je montre une double page un peu violente, dure, sur des personnages qui ont suivi, qui essaient de récupérer Hobbes, mais ce qui se passe en Europe, c'est assez, bon, je ne le montre pas. Par contre, il fallait trouver la solution, et je suis pas médecin, mais j'ai le vaccin, c'est quelque chose qui marche apparemment. Donc un des personnages étant médecin, hein, génial, il a quand même tenté quelque chose, parce que il s'est trouvé un truc très bizarre, c'est que on proliférait dans la région de la plage où le bug a été avalé des centaines, des milliers de murènes bleues. Voilà.
Poser une question bête, mais cette idée-là, elle vient post-Covid, avec tout le vaccin qu'envahit notre actualité, là, ou pas.
C'est pas impossible, parce que l'histoire des vaccins, le fait que les vaccins aient pris énormément d'importance dans cette période-là, qu'on a craint le pire, qu'il y a eu des tas de débats contradictoires entre médecins, etc., entre chercheurs. Oui, je pense que ça a fixé le truc peut-être plus rapidement. C'est sûr, même. Ouais.
Ce bug mondial, c'est une question déjà abordée, mais quand presque tous les jours, on le craint, ce bug mondial, quand on voit qu'il y a des câbles sectionnés en Méditerranée, quand on voit aujourd'hui la guerre des réseaux au sens large. Vous, comment, à l'origine, parce qu'on en parlait moins, je dis que le livre était sorti en 2017, comment cette idée de base, presque ce point de départ, vous était venu?
Alors d'abord, avec le sommet du monstre, j'avais fait un travail sur l'obscurantisme religieux. C'était vraiment le gros sujet. Alors que ça dérivait après, parce qu'après le 11 septembre, une réalité qui est venue percuter ma fiction, en fait, hein, et qui a asséché complètement la suite de mon travail là-dessus. Donc j'ai bifurqué vers l'art contemporain, la folie, le mal suprême, etc. Mais le sujet d'importance était là. C'était le sujet universel, global, de l'obscurantisme religieux. Donc c'est arrivé ici, sur nous, en France et dans le monde, partout. Ensuite, il me fallait un autre sujet un peu plus... aussi fort, aussi universel. J'ai pensé à la planète Terre qui se révolte. Donc, ça donne une fable, hein, donc c'est coup de sang, trois albums. Et puis bon, dans la foulée, il me fallait quelque chose aussi d'aussi important et d'aussi visible à, dans un futur proche. Donc le numérique, évidemment, était en pleine explosion, expansion, hein, depuis déjà longtemps. L'addiction, j'étais moi-même touché. Alors je raconte, c'est vrai, hein, ça m'est arrivé, je suis pas sûr que ce soit ça qui ait déclenché, mais voilà, c'est l'histoire de la piscine où je me baigne en Corse, sous un ciel de bleu magnifique. Et puis quelque chose chauffe sur ma cuisse, bat contre ma cuisse. Je comprends que j'avais laissé mon portable dans la poche d'un maillot de bain. C'est absurde de mettre des portables dans une poche de maillot de bain, mais bon. Je sors immédiatement. L'appareil avait commencé déjà à chauffer. Il est mort dans les 10 secondes après. Et je suis resté 4 jours sans. Donc addict moi-même, me rendant compte que c'était absurde d'être comme ça, dépendant. Mais très vite, lorsque j'ai pensé à un bug général, j'ai imaginé un truc irréversible, un truc complètement radical, total. Donc un bug qui ne provient pas de l'humain, parce que l'humain déjà, il a fait tous les pare-feux. Je pense qu'il y en a énormément. Aucun bug de cette nature-là ne pourra arriver. Oui. C'est impossible. Donc voilà, il fallait quelque chose. Et déjà à ce moment-là, je savais que le bug ne serait pas l'œuvre provoquée par un humain. Donc déjà, la dimension cosmique était là, présente. Et donc voilà, c'est comme ça que le sujet est né. Alors, par exemple, il y a un élément qui m'a surpris ces deux, trois dernières années, c'est l'irruption brutale de l'intelligence artificielle. Alors que c'est un des grands thèmes de la science-fiction, hein, depuis que j'en lis et depuis qu'elle existe. Hein. L'homme augmenté, l'intelligence artificielle qui prend le pouvoir, etc. Enfin bon, bref, il y a eu tout, des films, il y a eu tas de choses là-dessus. Donc c'est quelque chose qui était totalement dans mes cordes et qui était... Mais la vitesse à laquelle c'est arrivé m'a surpris. Alors, ce qui me rend tout à fait à l'aise, c'est que avec un bug comme celui-là, la première chose qui disparaît, c'est l'intelligence artificielle. Donc l'intérêt, là, c'est que c'est le bug du mal qui n'est pas totalement vaincu, qui va s'appuyer sur une partie d'intelligence artificielle qu'il va réussir à détourner. Donc c'est déjà à la fin du 4, il y a une apparition d'une créature chinoise, notamment, tiens, pourquoi au hasard comme ça, et qui sera le... Donc l'intelligence artificielle arrive bizarrement après la bataille, mais en même temps pour la bataille finale.
Oui, mais justement, j'allais dire, est-ce que c'est peut-être un des, vu les thématiques que vous traitez, un des rares sujets que vous avez moins senti, celui de l'intelligence artificielle?
Ben, je viens de donner la réponse.
Vous venez de donner la réponse, mais parce que là, effectivement, il arrive
dans ce tome 4. Il était temps.
Et c'est vrai que quand j'ai reçu l'album, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va être question d'intelligence artificielle dans ce livre-là? Parce qu'on ne voyait pas comment il pouvait en être autrement. Ouais. Et en même temps, moi, je me suis dit, est-ce qu'il ne va pas faire le choix de presque totalement s'en écarter? Parce que j'imagine que vous avez dû vous poser cette question-là aussi, de la place de ce sujet dans cette œuvre.
Bien sûr, à un moment, il fallait que je l'introduise dans le jeu. Et c'est vrai, bon, je l'ai fait à la fin. Mais sinon, j'aurais très bien pu vous dire la réponse. Je dis, mais non, elle n'existe plus depuis le début du bug.
Oui, c'est ça. C'était facile de s'en sortir, en fait. Est-ce que, quand vous voyez justement tout ce qui se passe, et vous reparliez de certains de vos séries précédentes, est-ce qu'on peut encore parler, quand on lit ce type de livre-là, de récits d'anticipation?
Peut-être oui. Bon, vous voyez, anticipation. Alors, même science-fiction, j'avais dit, on dit parfois des bêtises ou des choses qu'on croit sensées et qui ne sont pas forcément. J'ai dit que la science-fiction, c'était fini, pas forcément. On vit dans un monde de science-fiction, c'est certain. Oui. Mais il y a un élément science-fictionnel qui nous échappe toujours, c'est l'autre, celui qui est ceux qui sont loin, et ils sont nombreux, à mon avis. On n'est pas seul, hein. Et donc, ça, c'est quelque chose qui restera toujours parce que je pense que la probabilité qu'on le rencontre est infime. Donc, l'esprit va pouvoir vagabonder loin. Mais l'anticipation, c'est anticiper. Hein, c'est quand même, c'est prévoir. C'est un peu... anticipation, en général, c'est à court terme. Enfin, c'est ce que je ressens comme ça. Donc, c'est vraiment... Je pense qu'on est dans une forme d'anticipation.
Ouais. Elia, l'intelligence artificielle, vous l'utilisez, vous?
Très peu. Mais enfin, je suis fasciné par ça. J'ai pas eu le temps. Mais je suis pas du tout... Je me jette pas dessus pour GPT-4, machin, etc. D'y demander. Je l'ai fait, je viens avec des amis, j'ai plein de tests, c'est assez intéressant, mais je n'ai pas le temps. Alors peut-être qu'un jour ça deviendra un sujet, mais faut pas cesser de dépasser. Par contre, je veux dire, faut surtout pas cesser de dépasser parce que ça va très très vite. Ça va aller loin, très vite et très loin. Après, c'est l'excellence, c'est des choses magnifiques et des choses extrêmement périlleuses. Donc, on est dans quelque chose de qui contrôle ça. C'est ça qui est peut-être inquiétant. Hein, de savoir que ce sont des gens comme Elon Musk, comme la Silicon Valley, ce sont des gens riches. Et le problème, c'est que ça peut aller très vite. On met beaucoup d'argent et on va construire un monde dont le fossé va s'accroître entre les riches et les pauvres, encore plus qu'il c'est le cas aujourd'hui, hein, mais ça sera mondial, global. Mais en même temps, donc il y aura deux vitesses, une intelligence artificielle pour nantis, pour une élite financière, intellectuelle aussi, parce que ça va aller de pair, hein, et une intelligence artificielle de bas étage pour contenter la grande masse. Le problème, c'est que ça va être 99%. Bon, je sais pas, là, c'est une vision un peu sombre, mais c'est pas la mienne. Hein. Beaucoup de chercheurs se posent cette question, c'est évident. Mais en même temps, voilà, on a, c'est l'histoire de l'humain, l'humanité, c'est d'aller toujours loin, de creuser, de découvrir.
Et vous, en tant qu'artiste, vous la craignez, cette IA ? Que demain, alors, on puisse dire, écris-moi une nouvelle série, à la Inky Bilal.
J'ai déjà eu affaire à ce genre de questions. Là, bien sûr, sur le plan graphique, pour l'instant, c'est assez grotesque. Hein, je suis pas convaincu. Et je pense que de toute façon, la main de l'artiste restera toujours. Il y a une sensibilité, une faiblesse même, je veux dire, par rapport à la perfection, peut-être qu'introduira le. Qu'introduiront tous les algorithmes qui vont constituer la base d'un graphisme selon moi ou un autre. Donc je crains sans le craindre. Je pense que c'est effectivement un danger, mais je pense aussi que c'est comme sur le plan de la musique, sur le plan de l'écriture. C'est l'écriture, c'est peut-être le plus inquiétant, angoissant de voir que c'est assez brillant. En très peu de temps, vous pouvez avoir un script de film. C'est bluffant. Surtout, on n'est qu'au début.
Vous n'avez pas été tenté de lui soumettre une partie de votre scénario ?
Non.
Voir
non.
Comment l'intelligence artificielle y répondrait, quelle fin elle trouverait ?
Non. Non, mais j'ai un projet de film et mon producteur, sans me le dire, il a soumis mon script à deux logiciels d'intelligence artificielle professionnelle en plus. Encore. Et alors, il a fini par me le dire parce que les résultats étaient bons.
C'est-à-dire que le premier script, il vous a renvoyé une version vous disant...
Alors c'est très très bien, c'est impressionnant. Le résumé est meilleur que celui que je pourrais faire de mon propre sujet. C'est impressionnant. Ensuite, les qualités, je suis très content. Je dis, voilà, il n'est pas con ce bestiau. Il a compris. Et puis après, les défauts, il a raison aussi. Ouais. Et donc c'est assez impressionnant.
Et il pointait les défauts dans votre propre script.
Eh oui.
Mais quoi, des défauts dramaturgiques,
Oui, d'équilibre, de personnage. Et en fait, c'est vrai, c'était tout à fait juste.
Ouais. Ça fait peur quand même.
On peut demander une fin, un happy end s'il n'y a pas. On peut demander plusieurs sortes de fins. Il va sortir des trucs incroyables en 30 secondes.
Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, évidemment, dans Bug, c'est la question de la mémoire.
C'est le sujet central.
On additionne aujourd'hui tout un tas de données, on aspire toutes nos données. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on ne se pose pas la question finalement de qu'est-ce que la donnée essentielle et la donnée qu'on devrait protéger presque ?
Tout un chacun, je pense qu'on ne se pose pas la question. Même moi, je me pose pas la question. Je m'arrive très souvent de mettre de côté un fichier, un papier, un article. Je dis un papier, non, c'est même pas un papier, c'est un document virtuel. Je mets de côté en disant je le mets de côté pour plus tard et je l'oublie. Donc ça, on compte beaucoup de plus en plus sur la mémoire vive. Hein, on appelle ça la mémoire vive. Et la mémoire vivante, on la délaisse. Le cerveau, c'est presque, c'est pas un muscle, hein, mais c'est comme un muscle. Malgré tout, ça travaille, il faut le faire travailler, et c'est important. Donc, alors, la mémoire est en danger, ça c'est certain. Il y a des études très faites sur des enfants, hein, sur la manière dont ils sont éduqués. C'est assez impressionnant et assez inquiétant, parce que en fait, c'est dans les premières années déjà qu'on acquiert une espèce de capacité, on prépare en fait son cerveau à recevoir et à être curieux. Et il y a beaucoup de problèmes quoi à ce niveau-là partout dans le monde. Donc voilà, on va traverser une période un peu délicate de mutation, d'hybridation avec les technologies, etc. On est dans quelque chose de nouveau. Et pas seulement évidemment sur le plan technologique, aussi on le voit bien sur le plan politique et géopolitique.
Ouais. Nouveau et inquiétant,
tout ce qui est nouveau est inquiétant, mais c'est fascinant. On peut le prendre aussi en disant on va pas s'ennuyer.
C'est la version optimiste. Ça.
Ouais. Après, on dirait que je suis pessimiste.
C'est ça. comment vous travaillez, parce qu'on voit ces grandes cases. Il y a eu récemment plusieurs. Reportage dans votre atelier parisien, on voyait la façon dont en fait chaque case est presque une toile à part entière.
Pas exagéré, c'est plus grand comme ça. C'est pas très grand parce qu'il faut pas que le taux de réduction soit trop grand par rapport à l'album. Donc c'est, mais effectivement, c'est un. Enfin, ce que j'ai fait en changeant de technique, c'était au moment du sommet du monstre, hein, c'est de me libérer des contraintes de la bande dessinée classique, c'est-à-dire le tracer la case. Intégrer le phylactère, hein, la bulle, ensuite peindre autour de la bulle, il faut la contourner. Et, bon, il y a tout un tas de contraintes comme ça, et puis surtout découper à l'avance et ne pas pouvoir changer. Donc ça me pesait énormément. C'était à la sortie de Froid Équateur, qui était un livre où je me suis libéré d'une certaine façon, parce que je terminais une trilogie. Et j'attaquais surtout, c'est ça qui a déterminé ce changement de technique, j'attaquais un sujet qui était très important pour moi, qui était lié à l'éclatement de la Yougoslavie, hein, mon pays de naissance. Et ça a demandé un travail d'urgence, un travail de... c'était très dur, hein, pour moi, parce que j'avais des liens avec le pays qui explosait, j'avais des gens là-bas. Bon. Et donc, j'ai décidé de travailler case par case, en libérant le geste, en peignant davantage. Et ça, évidemment, ça continue. Et ça, maintenant, je m'adapte à chaque récit, à chaque thématique. Mais là, dans le 4, effectivement, c'est plus peint. Ouais.
Et ensuite, c'est vous qui recomposez numériquement.
Oui, oui. Bon, je fais un montage et je rajoute le texte directement dessus. Donc,
c'est ça qui est étonnant, parce que vous disiez effectivement avant, vous saviez où allait être la bulle. Et là, il faut la.
Alors, je la place où je veux, j'écris, je modifie le texte, j'inverse le sens des images s'il le faut, je recadre.
Vous retravaillez des couleurs parfois numériquement ou...
Non. Je travaille un peu la densité, la colorimétrie. Je pousse parfois, j'ai poussé les rouges là et des bleus, oui.
Et comment vous construisez vos personnages? Parce que vous parliez tout à l'heure du fait que vous avez un point de départ et un point d'arrivée pour l'histoire et qu'au milieu, voilà. Est-ce que les personnages, parce que souvent vos personnages ont. On se fait une première idée d'eux, et puis en fait, ils nous surprennent. Ben, Cameron Up, par exemple, on le pensait gentil, et là, bon, c'est un peu plus compliqué que ça.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, ça, comment vous le construisez?
Je vis avec eux, c'est pareil. Comme le sculpteur, je parlais du sculpteur, je crois que c'est une très bonne analogie. Je veux dire que je sculpte l'histoire, et je sculpte mes personnages en fonction de l'histoire aussi, et c'est l'histoire qui les modifie, ou eux modifient l'histoire. Mais je garde les fondements qui sont essentiels, c'est l'humain, l'ordien humain, parce que dans un récit comme celui-là, c'est nécessaire. Et quand c'est une histoire de filiation père-fille, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On sait ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est. Et donc, c'est une question intéressante, mais à laquelle il est difficile de répondre, parce que précisément...
Oui, mais pour nous, profanes, qui ne sommes pas auteurs, on se demande toujours...
Oui, je sais bien, mais non, mais c'est pas ça. Mais en fait, l'auteur, il est libre. Au fur et à mesure, il construit son histoire et ses personnages. La différence, c'est quand on est avec un scénariste, qui fait d'ailleurs un scénariste qui fait plusieurs récits avec plusieurs dessinateurs, il écrit un scénario de A à Z, et même très souvent, des scénaristes disent personnage, ils font un portrait psychologique très fouillé du personnage, ils donnent ça au dessinateur. Et donc là, évidemment, c'est une autre histoire, et c'est pour ça que j'aime bien travailler seul. Je peux plus travailler avec quelqu'un.
Vous pourriez plus, là?
Non, non, non. Et pourtant, j'ai travaillé avec l'un des meilleurs, Pierre Christin.
Ouais, c'est pour ça.
C'est pour ça qu'il connaît bien Bordeaux, qui était prof ici, ouais. Et que, qui a formé beaucoup de journalistes.
Dans les bas. Ouais. La bande dessinée, aujourd'hui, vous la situez où dans votre pratique artistique, j'allais dire? Parce que vous disiez, aujourd'hui, vous faites beaucoup d'art contemporain, on vous présente rarement aujourd'hui comme un auteur de bande dessinée. C'est aussi, notamment
oui.
Auteur de bande dessinée.
Oui, mais aussi, oui.
Ça reste l'élément central, vous, de votre
oui.
pratique?
Oui, ben, ça reste l'élément central parce que c'est l'élément où j'ai la liberté absolue. Voilà, c'est ça. Les autres mondes que je croise, dans lesquels je m'aventure, c'est soit par des rencontres, c'est très souvent des rencontres, soit aussi spectacle vivant, je sais pas, des travailleurs, des clips, par exemple, c'est des gens qui viennent me proposer un ballet, Roméo et Juliette, évidemment. Et donc, c'est des rencontres. Et donc, là, je viens avec mes bagages, et puis j'investis ce nouveau territoire, mais avec quelqu'un d'autre qui est là, on échange. Le cinéma, c'est très particulier, ça, c'est beaucoup d'argent, donc maintenant, de plus en plus, voilà, voilà, il y a des tas de films qu'on peut plus faire, c'est même dramatique, mais c'est bien, parce que justement, on se force à être le plus radical possible, le moins cher possible, et ça donne des idées, des trucs passionnants, donc moi, j'adore ça, en fait. Et donc, mais voilà, la liberté, elle n'est que dans le dessin. C'est un travail artistique, mais aussi artisanal. Je suis seul chez moi. Voilà. J'ai un éditeur qui me fait confiance et on travaille ensemble et on avance ensemble.
Vous lui êtes, j'allais dire, presque redevable à la bande dessinée, parce que vous racontez que quand vous êtes arrivé en France à travers la BD, vous avez aussi appris la langue. Et aujourd'hui encore, vous sentez redevable vers le 9e art ?
Ah ben bien sûr, bien sûr. Absolument. Je trouve simplement que, et ça, je pense, c'est une critique que je vais faire sur peut-être pour la France, ce pays même qui est un pays de culture absolument magnifique et qui a vu naître un art absolument libre. Et les années 70, 80, 90 ont été d'une liberté totale que nous enviaient absolument les Américains, les Japonais. Vous n'imaginez pas comment les Japonais nous considéraient à ce moment-là. Mais 10 fois plus qu'en France, parce qu'en France, on continue à considérer que le dessin et l'imaginaire, c'est un truc d'enfant, c'est un peu dégradant. C'est sérieux maintenant, tu as appris à écrire, faut lire. Puis tu vas lire Proust, hein, tu vas pas lire, c'est très bien Proust, mais tu vas pas lire. Bon, bref, il y a un peu ce côté-là, et ça, malheureusement, je trouve que il n'y a pas eu la reconnaissance de ce cet énorme mouvement artistique, puissant qu'était la bande dessinée franco-belge des années 70, 80, 90. Voilà, c'est une petite, mais en tout cas, c'est je sais parfaitement ce que je dois à ça. Et puis, moi, là, je continue à être libre, donc
Et vous continuez à en lire à découvrir
très peu,
ouais.
J'en lis très peu depuis que j'en fais. J'en lis quasiment pas. Je lis celle de mes amis, je me suis au courant de ce qui se fait, mais j'en lis quasiment pas.
Et pourquoi?
Parce que je n'ai pas le temps.
Oui.
Non, c'est vrai.
Basiquement.
Non, c'est vrai. C'est pas. Je suis pas. Parce que non, quand. Et puis c'est pour sortir aussi de. En fait, au départ, c'était pour en sortir, justement, pour arriver à la bande dessinée par un autre chemin et ne pas être dans la citation, l'autocitation, la référence, l'autoréférence. Voilà. Je pense que c'est bien. De même, je crois qu'un cinéaste, un réalisateur, ne doit pas regarder que des films. Alors, il y en a qui font que ça et qui font ça très bien. Tarantino, par exemple, il a tout vu, il a des références
ça,
partout. Ouais. Il le fait très, très bien. Mais je pense qu'il lit aussi. Il doit être plein d'énergie à tous les niveaux. C'est un type un peu incontournable. Mais ça, je crois que c'est vraiment très important de ne pas baigner en permanence dans le milieu dans lequel on évolue ou dans lequel on s'exprime.
Vous parliez d'un nouveau film tout à l'heure.
Oui, c'est en cours, mais je préfère m'en parler parce que c'est un projet que je pensais abandonner. Moi, j'avais des projets qui s'étaient arrêtés presque au moment de commencer, et donc je dis oh là, je laisse tomber, c'est trop compliqué, je suis trop cher, c'est trop atypique, c'est pas assez formaté. On me l'a dit, hein, c'est pour ça que au dernier moment, un des projets qui était très beau s'est arrêté, et je me suis dit j'arrête, laisse tomber. Et puis un producteur est venu me chercher. Quand je propose des trucs, ça marche pas, mais quand on vient me chercher, les trucs se font. Alors peut-être qu'il se fera ce film.
Et c'est Toujours dans un univers de SF, toujours.
Ça a beaucoup à voir avec ce dont on parle en ce moment.
L'IA ?
Non. Le bug.
Le bug. Ah, ça serait une adaptation. Parce qu'on avait parlé d'une série télé, je crois, à une époque.
Oui, c'est trop cher, trop.
Ah, ça aussi ? Parce que France Télévisions.
Pas assez formaté pour l'international.
Et même maintenant.
Du genre, mais il n'y a pas assez de science-fiction, il n'y a pas assez d'action, il n'y a pas assez de suspense. Mais si, il y a du suspense. J'étais avec Dan Franck, hein, on a écrit ça ensemble. Mais le suspense, il fallait le ressentir autrement que par des effets. Enfin, bon, bref.
Donc ça évolue. C'est pas mort, mais le projet.
Alors, c'est un projet tout à fait original que j'ai écrit. Ça se fera ou pas, mais je suis très, très satisfait de cette écriture. J'ai fait seul le travail et j'ai fait ce travail de réduction absolue, de telle sorte que c'est. Si ça se fait, ça sera. Moi, je serais très, très heureux de proposer ça. Quand même, tous ceux qui travaillent avec moi dans le cinéma, qui l'ont lu, nous disent on n'a jamais vu ça au cinéma, donc c'est plutôt une bonne chose.
C'est un compliment, a priori.
Oui.
Et alors, ce tome 5, évidemment, je ne vais pas vous demander.
C'est ça l'actualité pour l'instant.
Parce que vous avez dit que c'est la première fois qu'effectivement vous avez commencé à l'écrire juste après la fin du tome précédent. Ce tome 4, on l'a attendu un petit moment quand même. Ça veut dire que là, vous en êtes où ? Est-ce qu'on l'aura dans un an, dans deux ans quand...
Un an, c'est trop court, mais deux ans, oui, je pense, forcément, je pense. J'avance bien. Ça sera hybride, c'est ce que je peux dire.
Mais hybride dans la forme ?
Dans la forme, oui. Même type, même format de bouquin, en tout cas. Ouais. Je pense qu'il sera plus épais. Et il y a vraiment des choses à dire. Alors, faut pas dire. Voilà, c'est savoir formuler une matière qui est énorme, quand même. Hein, parce que. Mais je vois en tout cas quel est le rôle. Ça, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais le bug tout à l'heure. Le rôle du bug est très précis dans ma tête. Pourquoi il est là et d'où il vient. Ça, c'est très important. Après, pourquoi il le fait, ça aussi, ça coulera de source pour le lecteur. Et je vais faire en sorte que ça se finisse pas mal, quoi.
Mais c'est ça, vous dites, c'est une fin plutôt lumineuse, en tout cas.
On peut pas faire subir ça à ces personnages. Non, on peut pas.
Et comment vous vivez la fin d'une série ? Ce sera pas la première, mais quand on abandonne et que voilà, l'histoire est terminée, qu'on laisse ces personnages sur le bord de la route et qu'on part vers autre chose.
C'est moins douloureux, brutal que la fin d'un tournage, par exemple. Un truc où on a travaillé avec des gens pendant des mois, et tout d'un coup ça s'arrête, c'est assez perturbant, bizarre. Là, je quitte les personnages, oui, mais et d'ailleurs certains me le reprochent, mais je comprends, hein, qu'ils me disent mais vos personnages, ils se ressemblent toujours tous. Je dis, oui, bien sûr, c'est un choix. J'ai choisi, je me suis fait un casting de personnages masculins, féminins, animaliers, enfin animaux, tout ça, c'est un univers. Et donc je sais que jamais des personnages ne les abandonnent. Chacun laisse quelque chose dans le suivant, et ça parce que ça passe par moi. Donc ça c'est bien aussi, c'est confortable.
Et vous les relisez parfois vos albums pour
retrouver... Ah non.
Pour retrouver les personnages.
Non, mais même je dois dire que j'ai ouvert une fois le 3 en faisant le 4, une seule fois.
Sinon, vous travaillez sur la mémoire que vous avez de l'histoire.
Oui, oui. Mais une seule fois, pour un détail, je me suis dit, attends, ce personnage, qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là ? C'est ce qui prouve que c'est un travail qui joue beaucoup sur les ellipses. Et une ellipse permet d'effacer. Si un lecteur attentif me dit, mais il y a un truc qui est incohérent, je dis, mais il y a une ellipse entre les deux, et il a pu se passer ça. À ce moment-là, je peux toujours inventer un truc pour dire que... C'est pas une continuité, et mais par contre, quand c'est quelque chose de très important, donc je vais le chercher évidemment. Mais je ne relis pas, et je devrais peut-être, je sais pas, j'aimerais bien peut-être relire Partie de chasse, ce que j'ai fait avec Pierre Crestin, ou Les Phalanges de l'Ordre Noir, qui sont mes deux bouquins préférés avec lui. Ça serait, oui, je vais le faire.
Dernière question, je sais que vous allez pas y répondre, mais je l'attends. Vous savez déjà l'idée de la série suivante,
oui.
Et donc, ce sera
forcément un sujet au-dessus de celui du bug.
Je réfléchis en vous parlant au thème qui pourrait en ce moment.
Au-dessus, et oui, absolument. Et ce sera en fait un des films que j'ai pas pu, qui s'est arrêté au dernier moment, avant de commencer quasiment, hein, avec Orange notamment, bon, ça s'est arrêté. Et donc je vais en faire un livre, ouais, ça. C'est un sujet qui est superbe. Et qui... Il y a cette montée comme ça, on a la géopolitique, les pays de l'Est, partie de chasse, puis l'éclatement de la Yougoslavie, l'intégrisme religieux, l'obscurantisme, la planète en danger qui se venge de l'humain avec coups de sang, animal et tout ça, et puis bug, ah là on est en danger, tout ça, la mémoire qui s'en va, et après, bah, un autre sujet.
Eh bien, merci, Enki Bilal, d'avoir joué le jeu à l'occasion donc de la sortie de ce tome 4 de Bug aux éditions Casterman.